Bonjour Johan Oswald.
Bonjour.
La déforestation, c'est un phénomène très médiatisé que l'on connaît tous. Ça consiste en la régression durable des surfaces couvertes de forêts. Vous, Johan Oswald, vous travaillez particulièrement sur les fronts de déforestation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ça correspond exactement et quelle forme ils peuvent prendre ces fronts?
Ça prend plusieurs formes. Le front de déforestation, c'est la zone active de la coupe, d'abord de bois. Il faut imaginer que c'est non pas une terra incognita au sens propre du terme, mais en tout cas une terre qui est peu investie par les activités économiques humaines jusque-là, et que des activités vont commencer à s'y insérer, d'abord par la coupe de bois précieux, pour en faire une exploitation économique, ce qui va permettre d'ouvrir des espaces naturels par des voies de communication, notamment des pistes d'abord en terre, puis goudronnées, que cette exploitation va permettre une accessibilité à ces sites qui jusque-là étaient très peu accessibles, et donc vont attirer un certain nombre d'exploitants, notamment agricoles, pour s'installer et pour développer sur ces régions qui sont jusque-là pas accaparées, une propriété foncière ou une exploitation illégale permettant leur survie. Ou de s'accaparer un certain nombre de ressources pour augmenter leurs propres ressources si on pense à des grands exploitants agricoles. Et une fois que ce front s'ouvre et que les exploitants s'installent, on va avoir le développement de villages avec l'arrivée d'un certain nombre de cadres institutionnels qui peuvent se mettre en œuvre, tels que des écoles, par exemple, qui vont permettre à d'autres populations de s'installer. Et là, le cycle de front de déforestation se met en place, c'est-à-dire que la terre va prendre de la valeur, elle va pouvoir être revendue à un prix attractif, et un saut de puce va se mettre en place, c'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées en premier vont aller sur un autre site de déforestation pour recommencer une activité et pouvoir spéculer sur la terre à nouveau. Et là, on a l'avis d'un front de déforestation, ce qui a été appelé par Martin Druller, c'est la géophagie, l'idée que l'homme mange du territoire, et ce territoire, c'est la forêt, grâce à toutes les ressources qu'elle peut contenir.
Donc on fait face en fait à un grignotage sans fin, puisqu'on poursuit toujours, on repousse le front de déforestation.
La forêt a une finitude, donc ce n'est pas sans fin, la terre n'a pas de surface illimitée. Ce qui vaut quand même depuis maintenant plusieurs décennies, même s'il y a eu un écho et une portée mineure au départ, l'alerte de nombreux scientifiques sur cette finitude et sur les implications que cela peut produire sur le système Terre en tant qu'entité finie et en tant que tipping point, c'est-à-dire l'impact que les activités humaines vont avoir sur le milieu et donc potentiellement des changements majeurs tels que le changement climatique.
Quand on pense à la déforestation, on pense en premier lieu à la déforestation de la forêt amazonienne, celle qui est le plus médiatisée, qu'on appelle le poumon vert de la Terre. Mais le film Frères des arbres montre que cette problématique ne touche pas que le continent sud-américain. Il est ici question de la Nouvelle-Guinée, par exemple. Et même en France, quand on regarde vu du ciel, on voit que les espaces forestiers sont très réduits par rapport à ce qu'ils étaient il y a un siècle. Au final, la déforestation, c'est un phénomène qui touche le monde entier. On trouve des fronts de déforestation partout.
Ça fait partie de l'histoire humaine. La France a connu des fronts de déforestation également. Entre le 14e siècle et le 17e, il y a eu un fort recul des surfaces forestières en France. De l'ordre de... Bon, les chiffres sont peut-être à prendre à quelques pourcentages de largesse, mais de l'ordre de 17-18%. Et depuis le 18e siècle, on connaît une afforestation en France, donc une reprogression des surfaces forestières de ce même ordre. Donc 34% de surfaces forestières au 14e, 15e siècle qui peuvent être comptabilisées d'après les sources en France, avec aujourd'hui 31%. Forcément, si dans les systèmes récents on a une politique de protection des milieux et notamment des milieux forestiers dans les pays du Nord, il faut s'attendre aussi à une déforestation pour les besoins industriels dans les pays du Sud, et ce qui amène la naissance de ces fronts de déforestation, ne serait-ce que par la recherche de ressources dans le cadre des activités mondialisées de nos transnationales. Donc oui, il y a une pression forte dans ces pays. Cette pression n'est pas le fait que des agriculteurs locaux, qui ont souvent bon dos, mais bien d'une économie mondialisée qui a impacté aujourd'hui quelque chose comme 19% de la forêt amazonienne, puisque vous preniez l'exemple de l'Amazonie. Thomas Lovejoy, qui est un grand chercheur travaillant sur l'Amazonie, alerte sur la présence du tipping point, du point de basculement. Un point de basculement environnemental qui fait que la forêt ne serait plus capable de se régénérer par elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de résilience. Et il met ce curseur aux alentours de 25% de la forêt amazonienne. Donc on s'en approche, et donc on approche de ce point de non-retour. Que connaissent déjà beaucoup d'autres forêts. Si on pense à la forêt qui nous rapproche un peu de la thématique du film d'Asie du Sud-Est, on a dépassé ce point de basculement depuis un moment. Donc ça veut dire que les activités humaines pèsent beaucoup plus sur le milieu, et donc on va retrouver des interactions négatives entre le système naturel, ici la forêt tropicale, et les activités anthropiques, donc les activités humaines qui sont faites sur ces territoires, qui ont été gagnées sur la nature, avec l'aménagement de différentes ressources pour le développement international et des actions humaines en général. Si c'est le cas du Brésil, on pensera à la culture du soja et au bétail pour la production de viande, notamment pour les pays du Nord, au premier plan l'Amérique du Nord et l'Europe. Il ne faut pas oublier l'Europe dans ce jeu-là. Et la France, bien sûr. Et si on pense à l'Asie du Sud-Est, pour la production notamment, mais pas seulement, d'huile de palme, qui est aujourd'hui l'huile la plus utilisée au niveau industriel, avec des produits tels que, je ne suis pas sûr de pouvoir citer des marques à la radio, mais tels que Nutella, par exemple, qui est un exemple emblématique de cet usage de l'huile de palme et tous les effets néfastes que ça peut avoir à court terme sur l'environnement et la biodiversité dans la sous-région, et sûrement à long terme sur les populations locales qui ne bénéficient finalement que très peu de l'argent qui est généré par ces activités. Il faut avoir en tête que si on prend l'exemple de l'Indonésie, un des principaux pourvoyeurs d'huile de palme au niveau mondial, pour à peu près la moitié, les trois plus grandes entreprises d'exploitation de cette huile de palme sont singapouriennes, ne sont pas indonésiennes. Et donc cet argent ne bénéficie pas, ou très peu, aux populations locales. Or, une fois que les sols seront lessivés et érodés, qu'est-ce que ces populations vont exploiter ? Avec une démographie en constante évolution.
Donc pour lutter contre la déforestation, il faudrait changer le modèle économique actuel ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir dire ça. Philosophiquement, pourquoi pas. Le modèle économique actuel répond à des contingences qui ne sont plus étatiques, ou très peu. On a eu un glissement depuis le consensus de Washington de la gestion des choix économiques par les États par une gestion des choix économiques par les grandes entreprises qu'on appelle des transnationales. Et du coup, c'est plutôt un choix des consommateurs. Qu'est-ce qu'on consomme ? Quel est l'impact de ce que l'on consomme sur l'environnement ? D'où les débats qui animent aujourd'hui et depuis quelques années la blogosphère, et puis pas mal d'émissions autour de est-ce que je consomme bien ? Est-ce que finalement ma consommation a un impact ? Et quel choix je vais produire dans ma consommation ? Avec, pour prendre l'exemple de la viande, les contradictions qui se font jour entre les tenants, notamment scientifiques publics, de dire qu'on n'a pas besoin de manger de viande plusieurs fois par semaine et qu'on pourrait se contenter d'un apport en protéines animales un peu plus bas pour justement diminuer l'impact de notre consommation sur l'environnement, puisque le bétail est essentiellement aujourd'hui élevé dans les grandes fermes de ces pays du Sud et ensuite son sujet à exportation. Ou est-ce que d'autres acteurs scientifiques qui peuvent avoir des accointances ou pas, d'ailleurs avec le milieu industriel, eux postuler qu'il faille manger de la viande et que ça ne nuit pas à l'environnement et ça pourrait nuire à notre santé. On est sur un entre-deux sur lequel, n'étant pas médecin, je n'ai pas à prendre position là, mais qui montre bien que finalement le choix il est dans les mains du consommateur et qu'il y a des groupes de pression qui peuvent se mettre en place pour justement essayer d'apporter une vision sur les choix qui sont à faire. En tant que scientifique et en tant que scientifique travaillant dans un organisme public, je ne subis pas de pression par rapport à mes choix. Mon choix était de devenir végétarien depuis un certain moment maintenant parce que voyant les dégâts des fronts de déforestation, notamment liés au bétail, c'est un choix personnel. Un choix de consommateur. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Les grandes entreprises sont tenues par la consommation que l'on en fait. Si nous ne consommons plus, il n'y a plus de rentabilité financière et donc il va falloir trouver d'autres vecteurs pour pouvoir continuer à exister. On est toujours sur cet entre-deux, mais cet entre-deux, il est bien tenu par un certain groupe d'acteurs qui sont ces transnationales et qui n'existent que par l'économie mondialisée et par l'utilisation et l'usage que nous en faisons des produits que eux vendent.
En Amérique du Sud, il y a un projet de construction d'un corridor bio-océanique qui relierait les océans Pacifique et Atlantique, en passant notamment à travers, en plein milieu de la forêt amazonienne et à travers la Bolivie et le Brésil notamment. C'est un projet salué en Bolivie parce que c'est un pays très pauvre et que ça aiderait beaucoup économiquement. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça aurait sur les populations indigènes et sur l'écosystème amazonien d'un tel projet ?
Alors, je n'en ai pas idée là, j'ai pas de données chiffrées sur cette question spécifiquement, mais ça rejoint les questions d'aménagement du territoire. Par quel angle de vision on le prend ? Est-ce que il ne faut pas développer l'activité économique sur un territoire pour répondre à une sauvegarde écologique ou environnementale ? La question ne se fait pas forcément comme ça. Les espaces sont exploités depuis très longtemps. C'est plutôt la question de l'éco-efficience, c'est-à-dire quelle est la quantité d'activité économique que l'on peut développer sur un territoire qui jusque-là est naturel sans nuire à l'environnement. On est sur toute la question de l'interaction entre résilience et résistance. On sait que le milieu naturel a une résistance innée qui lui permet de résister à un certain nombre d'aménagements qui sont produits en son sein. Thomas Lovejoy, lui, a établi ce seuil pour l'Amazonie à 23%. C'est-à-dire qu'a priori, on peut exploiter 23% de la forêt amazonienne sans forcément arriver à un tipping point, donc en assurant la résilience du milieu. Donc il va se remettre de cette exploitation, il va se régénérer naturellement. Donc c'est possible, mais du coup, faut-il encore que l'ensemble des acteurs se mettent d'accord sur cela, sur le fait qu'on ne puisse pas exploiter un territoire à 100%, mais bien de l'exploiter de manière raisonnée pour permettre, d'une part, l'essor des populations et leur développement économique, puisque c'est pas maintenant dans la misère les populations qu'on va aussi résoudre ces problèmes environnementaux, mais tout en respectant aussi la planète sur laquelle aujourd'hui on vit, sur lequel on n'aura sûrement pas le choix de vivre pour les prochaines décennies, voire prochaines centaines d'années, et maintenir un équilibre qui permette à notre espèce, spécifiquement, de continuer à pouvoir exister. Des crises écologiques, il y en a eu dans le passé, des extinctions d'espèces, il y en a eu dans le passé. Aujourd'hui, la question de la sixième extinction, elle est bien présente, et est-ce qu'on veut être témoin de cette sixième extinction ou pas ? Est-ce qu'on est prêt à courir le risque d'un chamboulement environnemental qui pourrait remettre en cause notre propre existence, ou est-ce que c'est une fuite en avant et vaille que pourra, on fait confiance à la technologie et aux avancées technologiques pour maintenir notre activité, maintenir notre existence, quelles que soient les conditions. Ce monde-là, moi personnellement, pas en tant que scientifique, mais en tant qu'être humain, j'en veux pas. Je crois pas que la croyance technologique soit quelque chose de viable sur le long terme. Et surtout, ça me ferait mal quand je sors dans une forêt de ne pas forcément voir les animaux que je m'attends à y voir et devoir dire à un de mes enfants ou futurs enfants, tiens, il y avait ça et aujourd'hui tu ne l'as plus. Et malheureusement, dans pas mal de territoires et de zones humides de Bretagne, je ne peux pas forcément leur dire, tiens, il y a ce petit triton crêté qui était sur cette zone il y a encore peu, mais cet aménagement a détruit son habitat, donc tu ne le verras pas. Est-ce que c'est ce qu'on a envie ? Alors, est-ce que le triton crêté, a une valeur intrinsèque ? Quelle valeur on donne à la biodiversité ? Quelle valeur on donne à la nature ? Ça, c'est encore une autre question, mais je ne pense pas qu'on puisse parler en termes de valeur monétaire. Il y a une valeur patrimoniale, il y a une valeur culturelle, il y a une valeur en tant qu'espèce d'un même système et un respect qu'on doit à ces autres espèces pour maintenir ne serait-ce que nos propres valeurs. Si on les oublie, a priori, il n'y a pas beaucoup à espérer de notre société.
On suit dans le documentaire qui sera diffusé lundi soir au Tambour, justement, la trajectoire de Mundia Kepanga, un chef papou originaire de la tribu des Uli en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui nous invite justement à porter un nouveau regard sur la nature. Est-ce que selon vous, au-delà de mettre en place des plans de protection de l'environnement, de faire des choix économiques, il faudrait aussi changer notre regard et notre rapport à la nature ?
J'ai jamais été très bon en philosophie. Le film, il a ce don de nous réinterroger sur la valeur qu'on donne à la nature au prisme de l'acteur principal du film, qui est ce chef tribal. Il est fait sans prise de parti, il est fait de manière alerte, et les images sont suffisamment jolies pour nous interroger aussi sur cet Éden que peut être une nature qui est encore peu exploitée et peu aménagée. Est-ce que c'est un Éden qui est encore envisageable dans un futur proche ou lointain ? Je ne sais pas, ça c'est les choix sociétaux qui se feront jour. Aujourd'hui, le parti pris et la prise de voix de la génération qui va venir après moi est intéressante en ça, c'est qu'on sent qu'il y a un élan qui est donné sur cette prise de conscience qu'aujourd'hui, on risque de perdre quelque chose qui fait partie de nos vies, qui fait partie de nos valeurs, et qui serait tout un pan de la nature qui nous aurait été légué, si on en croit certains textes religieux, ou qui a toujours été là, bien avant qu'on arrive. Donc, quelle est notre place au sein de ce système ? Je crois que ça, chacun peut y répondre. En dehors de ça, c'est pas forcément notre place par rapport à la nature qui m'interroge moi, c'est ma place en tant qu'individu par rapport à la société et aux choix que cette société fait en rapport avec la nature. Et moi, en tant que protecteur de la nature ou en tant que citoyen qui souhaite arriver à la mise en œuvre de protection ou en tant que citoyen engagé dans des actions de protection ou d'aide communautaire pour mettre en œuvre des actions, c'est important de pouvoir réfléchir ensemble sur cette question, mais on en revient toujours au même système. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est nos actions de consommateurs qui permettent de guider les choix qu'on n'a plus en main de ce qu'on fait de la nature et de la manière dont on la met en aménagement. Si demain... des produits à base d'huile de palme viennent à être boycottés, bien sûr que ça va réinterroger les grandes entreprises dépendantes de l'huile de palme et qui en font leur fonds de commerce. Est-ce qu'ils vont faire mieux en se mettant sur d'autres produits ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça les interroge sur le fait que la société civile est capable, en tant qu'un ensemble d'individus qui font des choix différents, de se mettre en œuvre pour collégialement, avoir des choix qui permettent de créer des changements. C'est plutôt en ça. Et est-ce que la société est prête à ça ? La nouvelle génération nous fait l'espérer, parce qu'il y a des groupes qui se mettent en œuvre, il y a aussi des réseaux qui sont mis en place, et Internet pour ça est une force importante qui permet de générer des actions de foule nombreuses autour d'actions de boycott, ou simplement de réflexion, ou simplement de critique d'un produit. Ça s'est vu ces dernières années. Et s'il y a des moyens d'action qui peuvent être mis en place, c'est cela. Alors après, est-ce que ça réinterroge notre rapport à la nature ? Ça, j'en suis pas sûr non plus. Il se crée aussi des mouvements par contagion qui font qu'on va on va s'accoler à une cause parce qu'elle prend sens, parce que déjà, beaucoup de monde s'y sont intégrés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne... Moi, en tant que scientifique, c'est quelque chose que je ne peux maîtriser. En tant que politique, je ne suis pas sûr que des politiques puissent maîtriser aussi ça. C'est une émanation de la société civile et c'est aussi une émanation d'un ras-le-bol qui peut émaner de cette même société civile. Maintenant, il y a aussi d'autres actions qui sont mises en œuvre de l'autre côté, par les grandes entreprises, autour de la publicité, autour de justification sur le besoin d'assurer des ressources pour l'ensemble de la planète et donc ce besoin d'exploitation. Et c'est plutôt ces deux entités qu'il faut réussir à faire discuter et peut-être coïncider sur un certain nombre de points. Et c'est là où le scientifique peut être utile, c'est qu'il peut mener des études permettant de comprendre et de chiffrer ce que peut être les coefficients, ce que peut être un service écosystémique, et mettre en lien des besoins humains et des services que rend déjà la nature par rapport à ces besoins humains.
En s'adaptant à chaque situation, à chaque milieu, chaque spécificité aussi de chaque fond de déforestation.
Ben, s'adaptant à chaque territoire et à chaque société qui vit sur ce territoire. Tout à l'heure, quand vous parliez de corridor sud-américain, quand on pense à un corridor sud-américain, ça va traverser plusieurs pays, ça va traverser plusieurs entités économiques différentes, mais ça va aussi impacter différents peuples qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs et qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et la complexité, elle est là aussi, c'est comment faire coïncider cet ensemble-là en faisant prendre conscience qu'on n'est pas forcément seul sur le territoire sur lequel nous nous développons, mais que ce territoire fait partie d'une entité supra qui est la planète, et que les activités qui sont générées en un point de la planète peuvent avoir un impact en d'autres points de la planète. C'est ce qu'en géographie on appelle les téléconnexions. Et ça, c'est des phénomènes qu'on est capable d'analyser et sur lesquels on peut mettre du sens.